3. L'amplification. Nous avons vu que plus une situation paraît grave ou importante, et plus elle est susceptible de soulever des émotions. Or, tout comme pour les critères de proximité, de matérialité et d'identité, la perception de l'intensité ne découle pas uniquement de la sélection des informations. Elle peut également être construite par la formulation. Pour cela, nous allons utiliser les procédés relevant de l'amplification, qui consiste précisément à mettre en exergue la portée, la beauté ou l'horreur de la réalité. Ils sont principalement au nombre de 3, l'exclamation, la répétition, l'hyperbole. Commençons par le plus aisé, l'exclamation, qui consiste tout simplement à s'exclamer. En ce sens, elle apparaît davantage comme l'expression naturelle et explicite des affects que comme une authentique figure de style. Elle n'en présente pas moins une efficacité pratique indéniable dès lors qu'il s'agit de faire ressortir le caractère émotionnant d'une situation. Quelques exemples suffiront à mettre cette propriété en valeur. Au lieu d'énoncer mollement « cet homme traverse une épreuve difficile », lançons avec fougue « ce pauvre homme ». Plutôt que de dire ouvertement « cette situation m'attriste », reformulons avec ardeur « quelle misère ». Plus courte, plus ramassée, les tournures exclamatives confèrent l'apparence d'une plus grande intensité. Nous pouvons, du reste, en faire le constat quotidiennement sur les réseaux sociaux, et notamment sur le plus laconique d'entre eux, Twitter. Domaine de l'émotion par excellence, les exclamations y fleurissent comme les marguerites au printemps. Notons que l'exclamation peut également être adressée directement à un interlocuteur, réel ou imaginaire. On parle alors d'une interpellation. Considérons par exemple la phrase descriptive suivante. « Il est temps que la jeunesse se réveille et défende ses droits ». Pour gagner en impact, il est possible d'apostropher directement notre auditrice fictive. « Jeunesse, réveille-toi ! Défends tes droits !» Lorsqu'elle atteint sa cible, cette variation audacieuse pourra nous valoir cris et hurrahs. Prenons garde toutefois, elle est surtout adaptée au contexte grandiose et nécessite une force de conviction massive pour parvenir à soulever effectivement l'émotion. Dans le cas contraire, tout ce que nous récolterons pour avoir vociféré, ce sera la cruauté d'un silence gêné. Derrière des abords anodins, le deuxième procédé permettant d'introduire de l'amplification est lui aussi redoutable. Il s'agit des répétitions. La plupart du temps, réitérer un élément de notre discours suffira à lui conférer une impression de grande importance ou gravité. Nous ne nous attarderons pas sur ce point que nous avons déjà eu l'occasion de développer lorsque nous examinions les claptraps, les pièges à applaudissements. Rappelons juste que la forme la plus élémentaire de ce procédé, c'est l'épanalepse, qui consiste tout bonnement à répéter un segment de texte. Imaginons par exemple que, pendant une réunion, un collègue se laisse aller à une plaisanterie raciste ou sexiste à notre encontre. Immédiatement après, nous lui parlons entre quatre yeux. Ce genre de remarque, avec moi, c'est non. Je ne veux plus jamais entendre ça. Tu m'entends ? Je ne veux plus jamais entendre ça. Ici, le simple fait de réitérer notre menace permet de la mettre en exergue et d'accentuer sa portée. Pour peu que notre collègue ne soit pas le dernier des plastronneurs, il devrait en retirer de la gêne, de la honte, voire de la peur. Nous pouvons également recourir à une répétition plus complexe, l'anaphore. Elle consiste à commencer une série de phrases par un même segment de texte. D'apparence complexe, elle est en réalité très simple à articuler. N'importe quelle énumération peut être, à peu de frais, transformée en anaphore. Tout ce que nous avons à faire, c'est y repérer une formule pivot. Retrouvons notre collègue que nous étions en train d'admonester après sa plaisanterie malvenue. S'il cesse de fanfaronner, nous pouvons changer de registre et poursuivre ainsi. Tu ne te rends pas compte du mal qu'elle cause, ces remarques. Je l'ai subi dans la rue, dans les bars, sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas, en plus, avoir à les supporter au travail. Un léger ajustement nous permettrait de gagner en impact émotionnel. Tu ne te rends pas compte du mal qu'elle cause, ces remarques. Je l'ai subi dans la rue. Je l'ai subi dans les bars. Je l'ai subi sur les réseaux sociaux. Je ne peux pas, en plus, avoir à les subir au travail. Aussi simple que cela puisse paraître, travailler sur les répétitions, c'est déjà augmenter l'intensité de nos propos et donc gagner en émotion. Le principal procédé de l'amplification, plus que l'exclamation et la répétition, c'est toutefois l'hyperbole. En stylistique, c'est ainsi que l'on désigne la figure de l'exagération. Elle consiste à accentuer volontairement l'expression d'une idée ou d'une réalité afin de la mettre en relief. Pour le dire plus simplement, nous allons forcer le trait. Il nous suffit pour cela de choisir soigneusement notre lexique et de l'amplifier à l'aide d'adjectifs et d'adverbes d'intensité. Imaginons par exemple que, dans une épicerie, notre enfant de 8 ans se serve dans un bocal à bonbons. Il ne pensait pas à mal, bien sûr, mais il va néanmoins falloir lui faire comprendre qu'il ne doit pas recommencer. Au lieu de dire « c'est une bêtise ce que tu viens de faire, tu ne peux pas te servir dans les magasins », nous allons insister ainsi. « C'est grave ce que tu viens de faire, tu ne dois plus jamais recommencer, cela s'appelle du vol ». Nous pouvons également utiliser des métaphores hyperboliques. Admettons que nous désirions nous excuser auprès d'un ami à qui nous avons causé du tort. Plutôt que la formulation molle « je suis désolé, j'ai des remords », nous pouvons dire « je suis rongé par le remords ». Notons que si les hyperboles constituent effectivement un procédé efficace pour donner une impression d'intensité, il ne faut point en abuser. Elles ne valent que par l'effet de saillance qu'elles créent. Lorsqu'elles tendent à se répandre, elles finissent par perdre leur relief pour ne plus devenir qu'une simple manière de s'exprimer. Au mieux, nous paraîtrons enthousiastes, au pire, nous semblerons ridicules. L'un des exemples les plus criants à cet égard nous est offert par Donald Trump. Dans son livre « The Art of the Deal », il vantait déjà les mérites de ce qu'il appelait « les hyperboles véridiques », cette forme innocente de l'exagération qui se révèle être un excellent moyen d'autopromotion. Devenu président des États-Unis, il n'a pas manqué d'appliquer ses propres conseils. Chacune de ses prises de parole était saturée de marques d'emphase, de démesure, voire de vantardise. Et ce, jusque dans les plus grandes arènes diplomatiques. Le 25 septembre 2018, devant l'Assemblée générale des Nations unies, il déclarait par exemple « Je me tiens devant vous pour partager les progrès extraordinaires que nous avons accomplis. En moins de 2 ans, mon administration a accompli davantage que presque n'importe quelle autre administration dans l'histoire de notre pays. » La déclaration était tellement exorbitante que les auditeurs ne purent se retenir de rire, une réaction rarissime dans cette assemblée d'ordinaire révérencieuse. Comme toujours en rhétorique, lorsqu'un procédé est utilisé à l'excès, il finit par être repéré, perdant de ce fait toute efficacité. Si nous ne voulons pas passer pour prétentieux ou affabulateurs, mieux vaut donc manier l'amplification avec modération. La plupart du temps, une ou deux hyperboles seulement, glissées à des endroits clés, suffiront pour s'infuser dans notre propos et lui conférer, comme par capillarité, une grande intensité. Exclamation, répétition, hyperbole, Ces trois procédés d'amplification permettent d'apporter un surcroît d'intensité ou de gravité à nos déclarations. Elles n'en susciteront que davantage d'émotions. 4. La métaphorisation. Lorsque nous nous étions penchés sur l'utilisation des métaphores, nous avions déjà eu l'occasion de souligner leur effet de présence. Bien construites, elles ne se bornent pas à induire des images abstraites. Elles évoquent des représentations concrètes qui s'imposent à l'esprit des auditeurs, s'incarnent devant leurs yeux, semblent même à portée de main. Mais l'impact émotionnel des métaphores ne se limite pas à susciter une impression de matérialité et de proximité. Il présente également une importante spécificité. Nous l'avons vu précédemment, dès lors qu'une situation nous rappelle des événements saturés en émotions, elle en devient elle-même plus émotionnante. Cette similarité apparaît parfois comme évidente. Nous n'avons alors qu'à sélectionner avec soin les informations que nous dévoilons et les mots que nous utilisons pour la révéler au grand jour. Mais il est également possible de nouer une connexion entre des contextes beaucoup plus lointains, voire n'ayant, en toute honnêteté, aucun rapport. Pour cela, nous allons recourir à des métaphores. Exemple. Revenons à l'Assemblée nationale, en novembre 1974, alors que se déroule l'examen de la loi autorisant l'interruption volontaire de grossesse. Dans l'hémicycle, de nombreux orateurs se succèdent pour fustiger, avec véhémence, le texte porté par Simone Veil. Nous avons vu que le député de centre-droit, René Feit, n'avait pas hésité à faire écouter, à l'aide d'un magnétophone, les battements de cœur d'un fœtus de quelques semaines. Mais il ne s'arrête pas là. Quelques minutes plus tard, il déclare « Avec les dispositions qui nous sont soumises, le nombre d'avortements doublera en France, comme en d'autres pays, pour atteindre très rapidement 500 000, voire davantage, soit 5 fois le nombre des victimes d'Hiroshima. Ce serait un génocide légal. » Il n'est pas le seul à s'engager dans cette voie. Jean-Marie Daillet, député de centre-droit lui aussi, va encore plus loin. Supposez que l'on retrouve l'un des médecins nazis qui a encore échappé au châtiment, l'un de ces hommes qui a pratiqué la torture et la vivisection humaine. Y a-t-il, voulez-vous me le dire, différence de nature entre ce qu'il a fait et ce qui sera pratiqué officiellement dans des hôpitaux et dans des cliniques de France? Ces embryons, vous accepterez, madame, de les voir comme cela se passe ailleurs, jetés au four crématoire ou remplir des poubelles. » Sur le banc des ministres, Simone Veil, rescapée de la Shoah, déportée à Auschwitz, reste silencieuse. Décryptage. Les analogies déployées ici sont de 3 ordres. Commençons par cette image effroyablement vive utilisée par Jean-Marie Daillet, des embryons qui remplissent des poubelles. Il s'agit évidemment d'une métaphore. Le député doit bien imaginer que, si la loi est votée, la réalité de l'IVG dans les hôpitaux de France ne sera pas celle-là. Impossible toutefois de ne pas se représenter la scène. Il suffit qu'elle soit énoncée pour que nous commencions à la visualiser et à en ressentir une inqualifiable répulsion. Deuxième analogie, la comparaison avec Hiroshima, déployée par René Feit. Elle repose sur une équivalence quantitative à gros traits. Parce que le nombre de « vies perdues » serait similaire, les deux situations pourraient être comparées. L'interruption volontaire de grossesse se voit ainsi mise sur le même pied que l'utilisation de la bombe nucléaire, au mieux une décision meurtrière, au pire un acte de barbarie. Bien sûr, le raisonnement est sous-tendu par une prémisse discutable. L'avortement d'un fœtus reviendrait au meurtre d'un être humain. Toutefois, avant même que les auditeurs aient le temps d'en interroger la pertinence, les émotions soulevées par cet épisode sombre de l'histoire ont déjà été transférées sur la réforme examinée, la colère, l'accablement, le dégoût. Enfin, il y a les références à la Shoah. L'expression « génocide légal » employée par René Feith y est une allusion évidente, surtout après avoir évoqué la Seconde Guerre mondiale. Quant aux deux analogies de Jean-Marie Daillet, les médecins nazis et le four crématoire, elles sont explicites. Ces métaphorisations sont, elles, à déplorer. D'une part, parce que les crimes nazis figurent parmi les pires abjections auxquelles l'humanité se soit livrée. Sauf à avoir d'excellentes raisons de se risquer à la comparaison, les émotions qui y sont puisées ne peuvent qu'apparaître outrancières. D'autre part, bien sûr, parce que ces propos sont adressés à Simone Veil. Elle-même victime de la Shoah, elle se voit ainsi par un renversement odieux assimilée aux horreurs de ses persécuteurs. Ces exemples illustrent tant l'efficacité que les dangers de la métaphorisation dans le travail des affects. Efficacité d'une part, parce que les analogies dont nous parlons ont été ponctuées, à l'époque, de vives réactions dans l'hémicycle de l'Assemblée. C'est bien la preuve qu'elles avaient atteint leur objectif, susciter des émotions. Danger d'autre part, parce qu'elles ont été considérées, sur le moment, comme injurieuses. Alors que le débat avait commencé dans une réelle indétermination et que rien ne garantissait l'adoption de la loi, il semble que la férocité et les excès de ses opposants aient agi comme un repoussoir pour les indécis. Aussi fortes qu'aient été les métaphores utilisées, elles n'en furent pas moins perçues comme illégitimes. La répulsion qu'elles visaient à susciter s'est retournée contre leurs auteurs qui finirent couverts d'opprobre et échouèrent à convaincre. Lorsque nous cherchons à générer des images marquantes ou à rappeler des situations émotionnantes, prenons garde donc. Le procédé ne sera efficace que tant que nos auditeurs considéreront le rapprochement comme pertinent. Dans le cas contraire, ils se verraient dénoncés et nous finirions disqualifiés. Terminons en évoquant une dernière figure qui peut être considérée comme un cas particulier de la métaphorisation, la personnification. Elle consiste à faire agir ou parler, dans son discours, un personnage décédé, un animal, une abstraction ou un objet. Il s'agit donc d'une figure cruciale, puisqu'elle va nous permettre de réintroduire de l'agentivité dans ce que nous donnons à voir. Plutôt que de laisser penser qu'un événement soit dû au sort ou à la fatalité, nous réintroduisons un responsable susceptible d'être blâmé. Étude de cas. Militant écologiste, je cherche à convaincre de la nécessité de changer de modèle économique pour protéger le climat et la biodiversité. Bien sûr, je peux dire, si nous désirons préserver l'environnement, il faudra envisager une alternative au système capitaliste, dont le principe même est fondé sur l'accumulation illimitée de richesses, c'est-à-dire sur le fantasme d'une croissance infinie dans un monde fini. Mais, sauf à intervenir devant un parterre de spécialistes, ce serait prendre le risque audacieux d'endormir mon auditoire. Je gagnerais probablement en conviction si je formule mon argument ainsi. La finance est un monstre affamé de profit, et elle n'en a jamais assez. Si nous la laissons faire, elle continuera à tout dévorer, les hommes comme la nature, le climat comme la biodiversité, jusqu'à ce que notre planète devienne totalement inhabitable. Dans un dénouement absurde, la finance aura alors fini par se dévorer elle-même. Décryptage. En qualifiant la finance de monstre dévorant, nous déployons bien sûr une métaphore assez convenue au demeurant. Mais en la présentant comme un personnage animé, doté de volonté et d'intention, notre figure devient une authentique personnification. Nous ne nous contentons pas de produire de la peur et de la colère. Nous pointons un responsable vers lequel ces émotions sont dirigées et s'envoient en retour décuplées. Bien sûr, le procédé demeure largement superficiel, sinon même totalement artificiel. Selon les termes des sciences sociales, nous venons de commettre une authentique erreur de raisonnement portant le nom de réification. Il s'agit d'une simplification abusive, consistant à traiter un ensemble complexe de processus entremêlés comme une entité autonome douée de conscience. La finance, conçue comme un être pensant et agissant, n'existe pas. Si nous voulions être rigoureux, nous devrions pointer du doigt le manque de régulation des échanges fiscaux et commerciaux qui autorise les acteurs économiques à poursuivre sans entrave des stratégies par définition individualistes, le tout aboutissant à des effets délétères pour l'environnement. À ceci près qu'il est plus facile de susciter des émotions à l'égard d'une insatiable abomination que d'un défaut de régulation. Les métaphorisations, qu'elles prennent la forme d'analogie ou de personnification, permettent ainsi tout à la fois d'accroître le sentiment de matérialité et de proximité, d'évoquer une similarité avec des événements surchargés d'affect et d'introduire de l'agentivité. Adroitement utilisées, elles sont un outil de choix pour sculpter, révéler et parfois même façonner le potentiel émotionnel de la situation dont nous parlons.